Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi un projet, c'est un truc bien, mais je ne savais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait le pari il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
Ça ne vous a certainement pas échappé, mais l'engouement porté au personnage PI, mélange de crainte et d'admiration, est de plus en plus flagrant. Surtout à l'écran, avec des séries populaires comme Sherlock ou HPI. Mais comment détermine-t-on qu'une personne est à haut potentiel intellectuel ? Les élèves à haut potentiel intellectuel sont identifiés par un QI excédant la barre des 130. Il faut savoir que cette barre des 130 repose sur la courbe de Gauss des QI de la population, où seulement 2,2% des individus dépassent ce seuil, tandis que 2,2% se situent en dessous de 70. Le quotient intellectuel n'est donc pas un simple chiffre, mais plutôt une mesure relative au sein de la population générale. C'est-à-dire que les personnes HPI se distinguent entre autres par leur capacité d'apprentissage rapide en comparaison avec leurs pairs. On remarquera que le terme « élève HPI » est plus fréquemment évoqué que celui d'adulte HPI. Cela s'explique par les difficultés qui peuvent être causées par la précocité pendant la période scolaire. Mais attention, seuls 20% des élèves HPI sont diagnostiqués avant la 6e suite à des difficultés scolaires ou sociales. Cela signifie que 80% d'entre eux ne rencontrent pas de problème particulier à l'école. Et c'est aux élèves qui éprouvent un mal-être que l'ensemble scolaire Fénelon-la-Trinité de Lyon propose un dispositif particulier. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène dans cet établissement privé jésuite pour suivre les élèves HPI qui font partie des dispositifs Oxygène, Zèbre ou Sigma. Parfois, vous m'entendrez leur poser des questions. Parfois, vous entendrez les élèves s'interviewer entre eux, trop curieux de pouvoir échanger sur leur atypie.
Chex, c'est quelque chose qui m'atteignait beaucoup quand j'étais à Fénelon, du fait que on me colle cette étiquette de William, virgule, le mec intelligent. Et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette particule après William et de juste être William. Même si, au final, c'est bien d'être considéré comme intelligent, mais j'aimerais bien juste ne pas être considéré que comme ça. Et maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui, en fait, s'en contrefoutent et c'est quelque chose que j'ai compris après.
Moi, je dis jamais quasiment que je suis HPI. Il y a peu vraiment de personnes qui le savent. Et je l'ai déjà dit que je me le ressens pas particulièrement comme l'étant. Simplement, si on le dit pas, les gens vont pas c'est pas forcément quelque chose que les gens vont remarquer.
Moi, du coup, le fait que j'ai été diagnostiqué HPI, les profs, ils ont direct voulu me faire sauter des classes, etc. Et je sais que ça a modifié un peu la vision des gens, parce que sur moi, pour le coup, c'était visible, vu que j'avais 2 ans de moins que tout le monde.
Moi, le diagnostic, il a été fait assez tôt. Je crois que c'était quand j'étais en CE1. Et moi, ce qui me marquait surtout, c'était le score de QI. Parce que, je sais pas, moi, quand j'étais petite et tout, je me disais, j'ai un hyper haut score dans un truc, c'est trop cool et tout. Et du coup, c'était plus ça, même si je savais pas trop ce que dire, je disais à tout le monde et tout, en mode, waouh. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans le dispositif. Je vais faire un petit parallèle, mais c'est que même où j'ai trouvé que même quand on était dans le dispositif, c'était pas la chose qu'on mettait le plus en avant, le fait qu'on soit HPI. C'était. On restait dans l'innocence, où on faisait notre truc normalement, mais à la fois où ils prenaient soin de nous derrière. Et ça, je pense que c'était plutôt bien de nous aider sans vraiment nous. Et c'est ça où je disais qu'on n'était pas stigmatisés, parce qu'ils nous aidaient, mais sans vraiment nous dire. Vous êtes comme ça et c'est pour ça qu'on fait ça.
Donc, Jérôme Wiedemann, je suis chef d'établissement de l'ensemble scolaire Fénelon-la-Trinité depuis 8 ans. L'ensemble scolaire Fénelon-la-Trinité est un établissement sous contrat d'association avec l'État, sous tutelle jésuite. Il est composé d'un collège et d'un lycée sur 2 sites différents, de taille moyenne, dans un arrondissement plutôt aisé du 6e arrondissement à Lyon. On a 700 élèves environ au collège et 500 au lycée. Les établissements jésuites ont à peu près tous le même cadre. Il y en a 14 en France, ça représente 25 000 élèves. On les retrouve dans à peu près les grandes villes françaises, plutôt en centre-ville. Et nous, on existe depuis 1565 et on continue à travailler comme les jésuites ont vu l'éducation. Qu'on ne s'intéresse pas simplement à l'exigence académique et scolaire, mais qu'on essaye de développer toute la personne. On apporte aussi énormément de soins à chacun, individuellement et non pas une masse, c'est ce qu'on appelle la cura personalis, voilà. Et surtout, on prend les élèves là où ils en sont et on les fait progresser. Ça s'appelle l'exigence académique ou on pourrait dire une envie d'aller encore plus haut, un pas de plus.
Alors, je suis Ludivine Chargros, j'enseigne au sein du Collège Fénelon depuis 23 ans. Et je suis enseignante en histoire-géographie, ça c'est ma casquette principale. Et depuis de nombreuses années, donc, je me suis investie dans les dispositifs d'accueil des enfants à haut potentiel. Alors, actuellement, on a une proposition donc, d'une classe à projet en 6e, qu'on appelle la 6e dite « oxygène ». Avec le recrutement d'une vingtaine de jeunes qui ont en commun d'être à haut potentiel, tous. On assume tout à fait cet entre-soi d'une année avec des profils qui néanmoins sont souvent très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on recrée en fait au sein de cette classe une hétérogénéité en fait dans les tempéraments, mais il y a ce point commun. Et à partir de la classe de 5e, nos jeunes sont répartis sur l'ensemble de nos classes. Et on peut aussi avoir des enfants à haut potentiel qui sont scolarisés sur nos autres 6e également.
Moi, c'est Dario.
Moi, c'est Romane.
Moi, c'est Charline.
Moi, c'est Gaspard.
Et moi, c'est Marchand.
Vous êtes tous les 6 en 6e oxygène.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est passé votre rentrée?
Et plutôt bien. En fait, je me suis sentie acceptée, tu vois, d'être dans une classe avec des gens qui me reconnaissent, qui me ressemblent.
Et parce que, en fait, avant, dans ta primaire, t'étais pas trop acceptée, parce que moi, ça a été allé.
Tu rigoles, j'avais aucun ami.
Ah, c'était moi, l'année dernière, c'était aussi difficile de s'accepter. En sixième, on est un peu tous pareils. Mm. On a fait un séjour d'intégration à la montagne, et en fait, on a tous appris, vraiment, c'est la phase où on a tous appris à se connaître, on faisait pas semblant, c'était plus facile de s'intégrer que moi, l'année dernière, j'arrivais pas à me faire de vrais amis.
Et à partir de la 5e, on a une autre proposition, on continue d'avoir une attention à leur égard, en proposant donc le dispositif ZEBRE, qui consiste en des regroupements ponctuels de ces jeunes sur le temps de la pause méridienne. Cela s'adresse à nos enfants à haut potentiel de 5e et 4e, qu'ils soient ou non issus du dispositif oxygène. Ils peuvent avoir été scolarisés dans les autres classes. Donc, je les invite, s'ils le souhaitent, donc, à venir dans ma salle entre 12h40 et 13h30, disons. Et ça s'appelle les pauses zèbres. Et c'est un temps qui est extrêmement gratuit, dans le sens où les jeunes viennent. Il n'y a pas forcément de proposition de ma part. Souvent, en fait, ils viennent pour jouer entre eux. Ils écrivent au tableau, certains travaillent, ils lisent. Mais ils savent qu'il y a cette petite bulle, en fait, dans une journée, où ils peuvent retrouver les amitiés et puis s'autoriser, en fait, à sortir peut-être un tout petit peu de leur classe et de leurs autres amitiés pour se retrouver un peu plus authentique sur ce qui fait parfois leurs petites atypies.
Alors, quand vous dites que vous vous sentez différent, c'est quoi?
Et en fait, les autres, par exemple, moi, en tout cas, personnellement, je voyais qu'ils étaient un peu, pas débiles, mais qu'ils avaient des raisonnements au rabais. 1 plus 1, ça fait 11 pour eux.
Souvent, t'as l'impression d'être la seule à avoir compris l'exercice. Du coup, tu te dis, c'est trop facile, donc c'est pas la réponse. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Du coup, je mets une autre réponse, alors je savais que c'était ça.
Moi, j'ai...
Surtout dans mes premières années de primaire, par exemple, on avait des petites opérations comme 3 plus 4, ou 8 plus 3, etc., etc., et que les autres, c'était pas forcément que je réfléchissais plus vite, mais eux, dès qu'ils avaient la réponse, ils s'arrêtaient et ils passaient à la suivante. Alors que moi, 8 plus 3 est égal 11, et 11, ça fait combien, etc., etc. J'ai décomposé pour voir comment on pouvait faire 11 avec tous les nombres.
Moi, j'ai l'impression que les HPI, on a tendance à dire, du coup, que les HPI réfléchissent mieux et sont soi-disant plus intelligents. Sauf que ça, si on remarque, c'est souvent dans les séries américaines que eux, ils peuvent résoudre des... des problèmes super compliqués. Mais moi, j'ai tendance à dire que les HPI, du coup, réfléchissent différemment et qu'ils se creusent encore plus la tête. Et que souvent, c'est eux qui ont plus de difficultés à l'école. Même si je dis pas que tous sont super handicapés par ça, mais...
Pour moi, je me sens plus différente par rapport aux émotions et pour sociabiliser. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour un HPI, en tout cas pour moi, de pouvoir parler à quelqu'un, à un enfant de mon âge. Parce que moi, en tout cas, je trouve ça pas naturel, c'est super brusque, c'est pas du tout... même quand quelqu'un vient me parler, je trouve ça très bizarre.
Le dispositif suivant s'appelle le dispositif Sigma, en troisième et seconde. Alors, on change là encore de temporalité. On n'est plus sur des propositions qui concernent toutes les pauses méridiennes. On prend un petit peu de distance. Et on est sur des regroupements plus ponctuels, une à deux fois par période. Et on est plutôt sur du projet. Par exemple, d'aller faire une visite ensemble. Et par exemple, ils ont passé une journée pendant la semaine de la fête des sciences à l'ENS autour de différents ateliers, d'expériences, etc. C'est des regroupement ponctuel, mais aussi après un petit groupe qui fonctionne presque sans avoir besoin du professeur tuteur. Et ils se repèrent, ils savent sur quel autre groupe de sociabilité ils peuvent s'appuyer. Et c'est l'objectif aussi de cet autre dispositif.
Comment est-ce que vous procédez pour le recrutement? Quel type de famille vient déposer des dossiers?
Alors déjà, c'est plutôt des familles informées, donc plutôt des familles socialement, élevées, si on regarde bien. Donc on fait très attention dans l'étude des dossiers de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir candidater chez nous. On fait des réunions d'information, on essaye d'informer aussi bien les écoles privées que publiques du dispositif qu'on mène. On informe aussi, bien sûr, les psychologues et les psychiatres en charge des enfants. Donc pour qu'ils connaissent nos dispositifs, afin d'ouvrir très large, et on fait très très attention justement aux profils qui ne correspondent pas forcément aux élèves et aux familles qui taperaient de premier sur notre établissement. Quand je dis qu'on accueille tout le monde, c'est payant, un établissement privé est payant, enfin nous c'est 15 euros par mois. Après ça monte beaucoup plus haut pour les autres, donc c'est une solidarité qui se met en place. La deuxième chose sur cette mixité, dans les réunions on fait aussi attention de recruter, pas forcément sur une carte scolaire qui peut exister en public ou dans notre arrondissement, mais bien d'étendre ça sur tout Lyon, pour favoriser justement la mixité. Le sixième, il n'est pas mixte. Villeurbanne, déjà, est davantage mixte. Mais si on va chercher des élèves encore plus loin, on amène cette mixité sociale ou culturelle.
Par rapport aux enfants qui sont dépistés, qui passent les tests, est-ce que vous avez remarqué un déséquilibre entre les garçons et les filles?
Oui, très fort. On essaye de corriger ça, nous, pour la constitution de la classe, pour essayer de retrouver un équilibre. Mais on n'y arrive pas, on n'est pas du tout dans la parité. Ça s'explique quand même assez facilement parce qu'une enfant qui est HPI est quand même très adaptable si c'est une fille, alors qu'un garçon ne le sera pas. Alors que la fille, on va mettre du temps à découvrir qu'elle est HPI.
Alors si on revient sur le recrutement des sixièmes en classe oxygène, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez?
Alors, le point de départ, c'est que tous ces enfants ont un bilan WISC-5 qui a conclu à un fonctionnement à haut potentiel. Et le recrutement est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on a un temps en fait où les enfants sont reçus par petits groupes de 5-6 jeunes en même temps par notre psychologue scolaire qui propose d'autres tests, des tests projectifs. L'objectif étant de voir un petit peu les interactions, comment ce jeune interagit avec d'autres jeunes pour mesurer certains éléments qui tiennent plutôt au tempérament, à l'adaptabilité, de pouvoir cerner l'anxiété de performance, comment le jeune se situe sur un certain nombre de tests qui sont éclairants du point de vue de la personnalité du jeune. Et par ailleurs, la psychologue scolaire reçoit ensuite l'enfant et ses parents pour un entretien d'environ une demi-heure, une heure, aussi pour cerner si les besoins, les attentes de la famille correspondent, et de l'enfant bien sûr, correspondent bien à notre plus-value, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre de ce qu'on propose au sein du Collège Fénelon.
Donc, Marianne Malbeau, je suis parent d'élèves. J'ai eu 3 enfants qui sont passés par la section oxygène ici. Sachant que j'en ai 4, j'en ai un qui n'est pas passé par ici.
Alors justement, du point de vue du recrutement dans ce dispositif, comment est-ce que ça se passe du point de vue des familles ?
Alors je pense que du point de vue des familles, c'est relativement stressant parce que on ne demande pas à ce que son enfant rentre dans la section oxygène par hasard. C'est rarement que la vie est un long fleuve tranquille. On demande à ce que notre enfant intègre la 6e oxygène avec de bonnes raisons. Et les familles qui le demandent sont inquiètes à l'idée que leur enfant ne soit pas pris. Pour l'aîné, il avait un profil un peu particulier avec une année d'avance. Lui, il avait un TDAH qui avait été diagnostiqué, en plus du haut potentiel qui avait été identifié. Il avait des tas de problèmes scolaires, il subissait un harcèlement énorme. Et en fait, quand on a demandé à ce qu'il rentre ici, on a joué carte sur table. On était en train de chercher à faire diagnostiquer un trouble du spectre autistique. Et le collège l'a pris en sachant qu'il y avait ça dans les tuyaux. Et il a eu ce diagnostic le jour de la rentrée ici. Il a pu souffler pendant un an. Et puis enchaîner ensuite sur une scolarité tout à fait standard et satisfaisante. Le second, quand on a demandé à ce qu'il soit inscrit ici, au départ, on a dit on n'est pas bien sûr de vouloir l'inscrire en oxygène. On ne sait pas trop, on verra. Et en fait, au cours de l'année de CM2, il s'est mis à s'ennuyer horriblement et ça lui a posé problème. Nous, on était... un peu déconcerté parce que pour le coup, il nous paraissait très standard celui-là. Alors ok, il avait une identification de haut potentiel, mais bof quoi. Et c'est devenu vraiment compliqué. Et c'est le collège qui nous avait dit, écoutez, nous, on lui fait faire les entretiens pour rentrer, on ne décide pas, on se laisse le temps qu'il faut pour décider où il sera le mieux. Et à un moment, on s'est retourné vers le collège en disant, alors on a un problème qui n'était pas prévu. Et le collège a dit, on le prend en oxygène, c'est bon, c'est ok. Et celui qui est là ici, pour le coup, il est en situation de handicap avéré. Il a un AESH depuis la maternelle. Il n'a jamais appris vraiment à écrire. Il est sur ordinateur depuis le CP. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. À la fois, il a une curiosité, une culture générale énorme, et à la fois, il a des empêchements énormes. Et il a besoin de temps pour s'adapter. Et en oxygène, ils sont 20. Il y a le temps de donner à certains enfants qui ont besoin de temps et tout. Et lui, aujourd'hui, il picore dans le dispositif Zèbre. Donc, on a vraiment eu 3 expériences très, très différentes.
Et alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous donner, j'imagine que ce n'est pas facile, hein, mais des exemples sur ce qui fera que, oui, ce jeune, vous pensez que votre dispositif peut avoir une plus-value pour lui ou pas. Et dans ce cas-là, vous décidez de ne pas l'accueillir ou de l'accueillir dans une classe traditionnelle au sein de l'établissement.
Alors, quand on sent qu'il y a effectivement un sujet autour du fonctionnement à haut potentiel, c'est-à-dire que le câblage à la fois cognitif et sensible du jeune est une problématique. C'est-à-dire que dans la carte de son territoire, on est là sur un élément sur lequel il a besoin de mieux comprendre, en fait, et de surtout sentir qu'il n'est pas un monsieur ou madame toute seule dans le monde de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire quand l'enfant a une vraie sensation un peu de ses atypies, possiblement de ses singularités, et que à un moment donné c'est un frein à un épanouissement plus grand, soit dans ses performances scolaires, parce qu'il y aurait aussi possiblement des troubles du neurodéveloppement associés, et qu'on aurait du coup notre rôle à jouer, peut-être justement de détecter des éléments qui sont des freins et ne lui permettent pas pour l'instant d'être plus performant scolairement. Un enfant qui s'ennuie énormément, dans une pédagogie qui s'adresse un peu au tout venant et dont on pressent que justement dans un petit groupe de 20 enfants qui partagent cette vivacité d'esprit, ces fulgurants, ces intuitions, la pédagogie répondra davantage en fait à ce qui l'excite du point de vue de la pensée et de la cognition. Et il y a tout cet énorme aspect de la sociabilité des enfants qui n'ont pas encore fait l'expérience d'une amitié ou d'amitié au pluriel, qui ne sont pas adroits en fait dans leur façon d'entrer en relation et dont on se dit ben, que l'entre-soi, la rencontre avec d'autres enfants qui peuvent être singuliers de la même façon ou d'une autre façon, c'est quand on a vraiment cette intuition forte qu'il y a quelque chose à comprendre de leur fonctionnement et une anxiété à calmer quelque part, qu'on pense qu'il y a une plus-value.
Donc je suis arrivée au collège Fellon en quatrième et donc là j'étais zèbre. Après j'ai sauté ma troisième pour faire un an de sigma en seconde. J'étais très à l'aise socialement et il y a un moment à la fin de ma cinquième où je me sentais vraiment en décalage avec les personnes de mon âge et du coup je suis arrivée dans ce collège. Ça m'a permis d'être avec des gens qui différents un peu comme moi et d'avoir un endroit où la différence elle est normale et c'est assez agréable et ça aide pour venir à l'école quand parce que moi j'ai aussi fait une phobie scolaire et du coup quand l'école c'est vraiment un endroit horrible pour toi c'est bien d'avoir ces temps là et aussi tu disais justement Bastien que les profs ils savent ça, ils savent que t'es HPI. Et ça, c'est aussi agréable.
Alors, moi, c'est Thomas Labouvet. Donc, je travaille dans l'ensemble scolaire Fellon La Trinité depuis 14 ans. Donc, je suis conseiller d'éducation au collège, juste sur le site du collège, pas sur le site du lycée.
Donc, Christelle Néret, moi, je suis pareil à la vie scolaire depuis 14 ans.
Qu'est-ce qui change dans l'accompagnement de ces élèves et dans la prise en charge que vous avez de ces élèves par rapport à d'autres?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une diversité énorme à travers ces élèves. C'est parce qu'en fait, dans ces élèves, il y a énormément de catégories. On a des élèves qu'on n'entend absolument pas. On a des élèves qu'on entend plus que les autres. On a des élèves qui, intellectuellement, sont plus forts que les autres. D'autres qui n'ont pas besoin de travailler et qui arrivent quand même à avoir des super notes. Mais dans l'ensemble, c'est des élèves qui bougent.
Moi, juste une précision, je pense que le point commun entre tous ces élèves, c'est que dans cette classe-là, c'est quand même des élèves qui ont eu un passé primaire chaotique. Enfin, à peu près, voilà. Ce sont pas ce qu'on appelle les précoces adaptées. Parce que les précoces adaptées, on en a plein dans les autres classes. Et ça se passe très très bien.
Pour une question, est-ce que vous avez eu des problèmes avec des camarades?
Quand c'était un CM1, je me suis harcelée, ça a continué, physiquement comme verbalement, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc du coup, le dernier jour de CM2, je suis arrivée, je lui ai mis un coup de poing, je suis partie.
Moi, c'est pour répondre à ma propre question, c'est oui, je me suis harcelée, tout allait bien jusqu'en CE1. En CE1, il y a un garçon qui est arrivé et il a commencé à retourner tous mes amis contre moi. Ce qui fait que je me retrouvais tout seul. J'étais obligée de fuir, on m'insultait. Et en CM1, il y a une fille qui était dans ma classe derrière moi. Elle m'a mis un crayon dans les fesses. C'est pas drôle.
C'est pas drôle.
Et je me suis retenue, je me suis levée d'un bond, je l'ai crié dessus et j'ai failli lui donner une baffe quand même.
Est-ce que vous avez eu des difficultés justement avec des professeurs, par exemple en primaire? Par exemple, qui vous ont un peu malmené.
J'avais eu des problèmes pour écrire du coup en CE1. J'avais une prof qui n'était pas super gentille avec moi. Là, je suis passée sur ordinateur. Mais avant, du coup, je ne pouvais pas écrire et tout. Donc, c'était très dur pour moi. Et la prof, je ne pense pas qu'elle m'aimait beaucoup parce qu'elle l'effaçait les devoirs alors que je n'avais pas fini. Et elle me forçait à rester pour les réécrire pour que je rédige tout. Et du coup, pour m'avancer, etc., j'écrivais très, très... Enfin, j'essayais d'écrire le plus vite possible. Mais du coup, mon écriture était illisible et même moi, je n'arrivais pas à lire. Du coup, la prof, un jour, elle m'a arraché mon cahier. J'ai dû tout copier pendant les récré.
En fait, moi, en CE2, je me souviens d'une prof qui m'avait... tous les matins, elle me mettait au tableau pour me faire des additions, enfin, des tableaux en maths. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés en mathématiques, du coup...
Moi, c'était en CP, en fait. Ce qui se passait, c'est que j'avais pas trop de problèmes à l'école. J'allais vraiment vite. Mais ce qui se passe, c'est que je cherchais un peu les limites avec la prof. Et j'étais un petit peu perturbant et un peu provocateur.
Alors, je suis Laetitia Bouillot. Je suis maman de 3 enfants. Et mon dernier enfant, William, a été diagnostiqué HPI... à l'âge de 3 ans la première fois, parce que la maîtresse de maternelle m'avait alertée sur son avance importante. Et c'est une orthophoniste qui m'a alertée aussi, elle avait un petit cheveu sur la langue, je l'avais amenée comme ça, qui m'a dit « il est vraiment très en avance, vous devriez le faire tester ». Donc il a été testé la première fois à 3 ans. Ensuite, à 4 ans, William, il savait lire parfaitement. Donc là, la question s'est posée d'un saut de classe. Et donc, il a sauté la grande section. Il est rentré au CP. Et au CP, c'était encore compliqué, puisqu'il savait lire parfaitement bien, compter parfaitement bien, donc il s'y ennuyait encore beaucoup. Et à partir du CP, on m'a reproposé tous les ans des sauts de classe, et j'ai refusé tous les ans, parce que j'étais très inquiète qu'il ait 2 ans d'avance, ça me paraissait beaucoup. Et quand il est rentré en CM1, la maîtresse de CM1 m'a imposé une équipe pédagogique pour parler du cas de William. Et c'est ce qui m'a fait basculer et accepter le deuxième saut de classe. Donc il n'a pas fait de CM1. Et il est passé en CM2 pour ensuite rentrer en 6e à 9 ans, au collège Fénelon. Je trouve que les profs devraient être formés au repérage et à l'accompagnement des enfants précoces. Parce que c'est des enfants qui ont aussi beaucoup de troubles 10. William, il a une dysgraphie qui a été accompagnée après. Il s'est fait beaucoup disputer avant qu'on comprenne ça par rapport à sa dysgraphie en disant qu'il ne s'appliquait pas, tout ça. Quand il était en maternelle et qu'il a su lire à 4 ans, j'avais une maîtresse qui me disait « Je suis un stite, vous n'êtes pas un stite. Je sais très bien juger des avancements des enfants. » Et en gros, elle me disait, enfin, j'ai souvent entendu ça, beaucoup de parents pensent que leur enfant est un petit génie. Moi, je ne pense pas que mon enfant est un petit génie, sauf qu'il s'avère que sur certaines choses, il était en avance. Et je n'avais pas envie de me le faire reprocher, ça. Et moi, je n'ai pas du tout été accompagnée là-dedans. Je trouve qu'on manque d'informations, de formation sans doute. C'est peut-être moins le cas tant mieux, maintenant, et tant mieux. Mais c'est moi qui ai dû apprendre aux différents instituts que j'ai rencontrés ce qu'était un enfant HPI, pourquoi, comment. Certains l'ont bien pris et certains se sont renseignés, certains ont voulu avancer avec moi et comprendre. D'autres se sont sentis agressés quand je leur expliquais ce qu'était la précocité et le haut potentiel, quoi.
Par rapport à tout ce que vous m'expliquez, on voit que vous avez été, vous avez été formé ou vous êtes formé. De quelle manière est-ce que vous avez progressé sur ce domaine de connaissances ?
Alors, au tout début, c'était extrêmement pragmatique, c'est-à-dire que c'était vraiment un apprentissage, en fait, parce que j'enseignais en classe de 6e oxygène. Et puis, par ma curiosité, j'ai pu ensuite assister à des conférences, lire un certain nombre de choses. Notre établissement appartient à une association d'établissements. L'association s'appelle Précoce et elle a été fondée au départ, alors là, je ne saurais plus à quelle date, mais par des chefs d'établissement, voilà, qui se questionnaient autour de ce profil et qui cherchaient, en lien avec leur projet éducatif, à faire une place, effectivement, assez jeunes. Et donc, on organise ce qu'on appelle les universités d'automne, où on a 3 jours avec des interventions, notamment, on a un parrain qui est le docteur Revol, qui a énormément contribué à former, en fait, nos équipes. Et il y a 2 ans, j'ai également obtenu un diplôme universitaire en neuroéducation pédagogie par l'INSPE autour des troubles du neurodéveloppement, pour mieux comprendre, en fait, tout ce qui peut être, à un moment donné, un frein, un obstacle à la réussite, on va dire, à la performance scolaire d'élèves qui sont dotés de performances cognitives très importantes, mais dont les tests ou subtests au sein du WISC sont hétérogènes. Et donc là, j'ai vraiment, je suis montée en compétence sur la capacité, on va dire, de percevoir dans un test WISC, en fait, à quel endroit possiblement il pourrait y avoir à investiguer un trouble des apprentissages du type dyslexie, trouble d'hépraxie et possiblement spectre de l'autisme ou trouble, on va dire, de la relation, provocation. Enfin, on a parfois des enfants qui ont vraiment une difficulté, en fait, autour un trouble d'opposition et de provocation. Et voilà, c'est de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe et à quel endroit, en fait, on peut devenir, nous, un peu plus performants sur un accompagnement plus complet des jeunes.
Oxygène, donc avec la sixième. Et j'ai continué mon dispositif Zèbre, puis Sigma, dans le poulet. Je trouve que c'est plutôt bénéfique. Ça, parce qu'on apprend à apprendre autrement et à faire aussi autrement avec, tout ce qui est diversité.
Moi, je sais pas si je suis élève en seconde et je sais pas si moi ça a changé beaucoup de choses au niveau vraiment scolaire, mais surtout au niveau social, parce que du coup j'avais plein d'autres élèves HP autour de moi et du coup j'ai l'impression que naturellement je parle plus avec les gens comme ça et ça m'aide.
Pour moi, déjà je suis arrivée en seconde au lycée de la Trinité, donc déjà j'ai fait deux secondes, donc la première on va dire qu'on la compte pas. Et par rapport à tout ce qui est apprentissage, moi dans mon cas je trouve que être dans ce lycée ça a permis d'améliorer la chose, mais en tout cas il y a encore du boulot à faire quoi. Et surtout ouais, sur l'apprentissage encore même, ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des freins un peu.
Moi je suis là depuis la sixième, ça fait longtemps que je suis dans le dispositif, donc je pense que ça a surtout servi en sixième pour faire une espèce de transition où à la fois c'était la première fois qu'on prenait en compte notre différence entre guillemets, on va dire, je vais dire un mot fort, mais on n'était pas stigmatisé parce que c'était vraiment une année où on est juste dans une classe spéciale et après on était dispatché, donc ça a fait comme un espèce de pont où juste ça s'est fait très fluidement en fait pour moi, parce que je sais que par exemple il y avait mon père qui avait un peu peur que ça me freine un peu dans la sociabilisation, on va dire. Mais moi, ça a plus fait un effet vraiment de fluidité par rapport à la primaire, collège, lycée, où j'avais aussi un peu ce truc pour me... une espèce de sécurité derrière, que je savais qui était derrière moi. Et à la fois, je faisais ma vie normalement. Et ça n'a jamais été vraiment quelque chose avec laquelle je me suis définie, d'être HPI par exemple ou quoi. Mais c'est quelque chose qui faisait partie de moi et que j'ai pu avoir aussi une petite partie dans ma vie qui faisait attention à cette chose qui faisait partie de moi.
Moi, je m'appelle Bastien, je suis en seconde. Je suis dans l'ensemble scolaire depuis la sixième, mais j'ai intégré le dispositif Zèbre Sigma depuis la cinquième. J'ai bien aimé aussi qu'on soit plus rassemblés, enfin, qu'il y ait des moments où on soit ensemble. Mais j'arrivais plutôt bien à m'intégrer avec les autres personnes, donc ça allait.
C'est peut-être pour ça que tu n'étais pas dans la classe oxygène, c'est d'ailleurs.
Ça. Que même si les cours, ça m'intéresse, certains, je n'aime pas être en cours, ça me donne quand même envie d'aller au collège et au lycée. Et après, que les profs le sachent, c'est bien aussi, parce que ça permet d'adapter leur mode de fonctionnement.
Et par rapport aux familles qui, j'imagine, arrivent avec des inquiétudes très particulières, est-ce que la communication, elle est plus resserrée, on va dire, qu'avec les autres familles de...
Ouais, je les vois très souvent. Alors déjà, quand la classe est constituée, alors ça, on le sait assez vite, hein, dès le mois de janvier, février, généralement, on a nos 20 élèves. Et donc, au mois de juin, en fait, je rencontre l'ensemble des familles pour déjà reprendre les éléments et répondre à leurs questions. Et à partir donc de la rentrée, il y a 5 rencontres avec moi, rencontres d'adultes, hein, où je rencontre les parents. L'objectif étant aussi de créer un groupe un peu de parents aussi qui peuvent partager en authenticité ce qu'ils vivent, ce que ça leur fait vivre aussi. Et puis, parfois, j'apporte des éléments, on va dire, théoriques. C'est-à-dire que j'essaye aussi de faire une veille scientifique et de leur partager des éléments captés dans telle émission, dans telle conférence, une lecture...
En fait, la classe, elle a pour nom la classe oxygène. Mais pour nous, ça a été tout simplement l'oxygène de toute une vie. Parce que William, c'était très compliqué à l'école. C'est un enfant qui dormait pas. C'est un enfant qui était... Moi, j'avais pour habitude de dire il aime rien, en fait. Il aime pas le bain, il aime pas aller à l'école, il aime pas manger, il aime pas dormir. Il était jamais bien, et la classe oxygène, ça a été vraiment la bouffée d'oxygène de sa vie et de la nôtre, du coup. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul, comme parents, à vivre des choses particulières avec un enfant particulier. Parce que William, il a enfin été heureux à l'école. Dans cette classe-là, il propose des alternatives aux scolaires purs, c'est-à-dire que toutes les 6 semaines de mémoire... il faisait une semaine oxygène, un peu off, en allant au théâtre, en allant voir des expos, en allant à la fac, en allant plein de choses. Et puis nous, en tant que parents, on était en réunion de parents une fois par mois, et très très suivi, et n'était pas pris en compte uniquement l'aspect scolaire de la situation de nos enfants, mais également tout l'aspect psychologique et le comportement à la maison. Et ça nous a permis aussi de créer un groupe de parents qu'on rencontre encore avec nos difficultés de parents d'enfants précoces si particuliers, quoi.
Souvent, je dédramatise énormément. C'est-à-dire que je remets l'idée qu'il y a du temps, en fait, et que leur enfant, il ne va pas changer du tout au tout. C'est-à-dire que ceux qui semblent faire un petit peu son tempérament, sa carte un moment d'identité, ils deviendront aussi des adultes qui vont pouvoir s'appuyer sur certaines forces, mais qui, sur certaines, il y a parfois des espèces de dépressions un peu existentielles chez ces enfants. Adultes, en fait, ça ne va pas disparaître. Et que nous, on doit les équiper. C'est-à-dire que nous, adultes, on doit être solides, en fait, pour leur dire que ces événements-là, ils vont les connaître, en fait, dans leur histoire. Et que, ils ont besoin simplement de savoir qu'il y a des ressources qui existent. Et puis que, quand tout s'agite, il y a un moment donné, il y a un retour au calme qui se fait. Et donc, mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que les parents se sentent bien, qu'ils réalisent qu'en fait, eux aussi ne sont pas tout seuls, en fait, à rencontrer parfois des difficultés, même dans le cadre éducatif. Et ça leur fait du bien, en fait, de réaliser dans cet entre-soi à nouveau, oui, qu'il y a d'autres enfants aussi qui ont un fonctionnement particulier et qu'il y a certaines réponses qui peuvent être apportées, qui fonctionnent à un moment donné, moins à d'autres.
Voilà, pour compléter, au moment du deuxième éventuel saut de classe pour William, l'équipe éducative qui a été convoquée, donc c'était le psychologue scolaire, le médecin scolaire, l'institutrice du moment, les instituteurs des classes précédentes et la directrice d'école. Et à ce moment-là, William a été testé une troisième fois par le psychologue scolaire qui, lui, m'a dit que William avait un très très haut QI, qu'il n'avait jamais vu ça. Il a un très haut potentiel, c'est les THPI. C'est aussi ce qui m'a fait dire qu'il fallait peut-être que je baisse ma garde et que j'accepte un second saut de classe. Et à ce moment-là, ce médecin scolaire, ce psychologue scolaire m'a dit, vous savez, il existe des établissements à Nice, je crois, où ils reçoivent des enfants avec un très très haut QI, THPI. Et il me dit, vous rendez compte, vous avez de la chance, c'est le genre de gamins qui peuvent avoir le bac à 13-14 ans. Et moi, ça ne me faisait pas envie du tout. Parce que je lui ai dit à ce moment-là, oui, avoir le bac à 13 ans, et après, c'est quoi la suite? Il finit sa médecine à 20 ans, et est-ce qu'il est heureux? Et moi, ce qui m'importait, j'ai d'autres enfants avant, on avait 5 enfants en tout, ce qui nous importait, c'était juste que William, il soit heureux, et entre guillemets, qu'il soit normal. J'aurais trouvé plus simple d'avoir un enfant qui marche bien à l'école, mais qui soit plus dans la normalité, parce que c'est inquiétant de se dire que son enfant, il risque d'aller très vite, mais peut-être trop vite, et de passer à côté des joies de l'enfance, des joies de l'adolescence, et de prendre son temps pour ça. Et du coup, le fait d'aller dans ce collège Fénelon, où ils avaient décidé d'essayer de faire en sorte que les enfants ne sautent pas des classes à l'infini, Cette pédagogie-là, elle me paraissait importante.
Moi, j'ai une question sur le diagnostic et les mots qu'on vous a posés, finalement, quand on vous dit vous êtes HPI. Et est-ce que ça vous a mis un poids sur les épaules de réussite? Comment vous l'avez pris, vous l'avez vécu, en fait?
Pour répondre à la question, ce serait plus... ça m'a mis un poids sur les épaules parce que, vu qu'on me disait HPI, les gens pensaient que j'allais être vraiment très intelligent, très fort, très très fort à l'école et tout. Sauf que moi, je ne me pensais pas trop très très fort à l'école. Du coup, j'ai dû beaucoup travailler pour essayer de garder un petit peu ce côté fort à l'école.
Alors, il y a certaines personnes pour qui ça va être hyper positif, ça va être libérateur, ils vont mieux se comprendre, etc. Mais je trouve quand même qu'en général, ça a vraiment tendance à pousser à la différence, parce qu'une fois que tu es diagnostiqué HPI, tout de suite, tu vas même inconsciemment, maintenant que tu es HPI, tu le sais, tu vas aller vers la différence. Ce sera plus difficile d'avoir des interactions sociales normales, parce qu'en fait, tu te dis « ouais, mais je suis HPI, donc forcément, tu vas t'éloigner des gens, entre guillemets, normaux. » Et puis ça a aussi tendance à rendre vraiment très, très sur d'eux, même un peu arrogants, les gens, moi, je trouve. Hein. Donc ça peut vraiment être très, très, très destructeur, je trouve. Ouais.
En fait, tout est un peu négatif, moi, dans mon point de vue. Parce que, par exemple, moi, je me suis fait diagnostiquer en fin de sixième, mais déjà, parce qu'en fait, avant, vers la primaire, j'avais des problèmes de comportement. Enfin, je n'étais pas une sauvage, hein, mais il y avait déjà quand même une opposition vis-à-vis de mes parents et tout ça. Bon, c'était déjà compliqué. Et donc, après, on m'a diagnostiqué, voilà, on m'a donné le papier. Et en fait, après, mon père, il s'est fait expatrier dans un pays à l'étranger. Du coup, on est parti de France. Et pendant 3 ans, j'ai rien eu. Je veux dire, le diagnostic, on n'en a rien fait. J'ai pas eu d'aide. Donc, j'ai fait mon collège là-bas, enfin, hors de la France. Et justement, le collège, c'était vraiment la période un peu dramatique. Quand on est HPI, en fait, on n'a jamais vraiment appris à travailler, vu que pour nous, c'est déjà, je sais pas si c'est inné, mais en fait, les choses, elles viennent toutes seules. Et jusqu'au jour où on change de système un peu, donc souvent, c'est le passage au collège. Quand on rentre au collège, on voit souvent qu'il y a une chute drastique, on va dire, des notes. Donc après, ça mène à une perte de confiance. Et puis, comme il y a du conflit parental et en France, c'est un peu la galère. Donc il y avait rien qui allait, quoi. Mais donc, voilà. Donc, c'est pour ça, après, un peu, en partie, qu'on est revenu en France après 3 ans. Et donc, seulement après 3 ans, on en a fait un peu quelque chose de ce diagnostic. Vraiment, on a revu des médecins et tout ça. Après, je suis passée sous... c'était plus pour le trouble de l'attention dans ce cas-là, mais en soi, c'est lié au HPI, mais j'ai pris des médicaments pour essayer de canaliser tout ça. Donc, vraiment, en fait, moi, j'aimerais dire aussi que passer un diagnostic, ça peut être super bien comme ça peut être super mal, et que je pense que... Parce que je sais qu'il y a eu une petite mode chez certaines populations d'individus. Un peu la mode du HPI, ou voilà. Mais je pense déjà qu'aller se faire diagnostiquer juste pour se le faire, ça sert à... Enfin, pas que ça sert à rien, mais s'il n'y a pas une optique d'aller aider son enfant et de le tirer vers le haut, faites-le pas, quoi.
Moi, je m'appelle William Bouillot. Actuellement, j'ai 16 ans. Je suis au lycée Lamache, à Lyon 8e. C'est un lycée technologique. En gros, personnellement, je fais de l'informatique. Et c'est un lycée techno et pro. Ils ont la filière générale qu'en seconde.
Moi, je suis Quentin Bullier. J'ai 18 ans. Et je suis actuellement dans une école d'ingénieurs informatiques à Lyon qui s'appelle EPITA.
Je suis resté 4 ans à Fénelon, du coup, comme un collège normal.
Et alors là, maintenant, et l'un et l'autre dans vos études, comment vous sentez? Comment ça se passe?
Personnellement, la filière technologique, je sais que ça m'aide beaucoup, parce que quand j'étais en filière générale, après le collège au lycée Saint-Marc, c'était très scolaire, c'était un peu élitiste. Alors pas le lycée, que j'ai beaucoup aimé, mais le système de travail. Je sais que les gens autour de moi, ils travaillaient tous un minimum de temps par soir, qui, moi, me dépassait complètement parce que je réussis pas à travailler à la maison. Et j'ai pas aimé ce principe-là, de devoir se focaliser sur les évaluations en révisant, de devoir écouter tout le temps en cours, avoir une attention permanente que, personnellement, j'arrive pas à avoir. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce lycée, parce que je pense que ça me correspond mieux, personnellement, pas du fait que je sois HPI ou je sais pas quoi, mais juste que je préfère... travailler un peu technique, enfin d'un côté technique plus que théorique.
Ça a plus de sens pour toi?
Ouais, je trouve.
Ce que je me retrouve à penser, c'est qu'au final, on est vraiment... On est tous humains, on est tous les mêmes. C'est qu'une appellation, il faut pas vraiment se mettre de la pression derrière tout ça. C'est... Quand on parlait de tout ce qui est pression sociale et tout, je pense que ça serait vraiment bête de ressentir de la pression du fait d'une appellation comme ceci.
Ah oui, ouais, voilà. Quand on fait un diagnostic, un diagnostic, faut qu'il soit encadré et qu'on le qu'il soit valide et qu'il soit
accompagné.
Oui, voilà, accompagné et ouais, qu'il soit vraiment là, quoi. Pas juste qu'on le mette dans un tiroir et qu'on se dise. Mais après, moi aussi, j'ai souvent mon père qui me dit que ouais, t'es HPI, ouais, t'as des troubles de l'attention, mais faut pas que tu te laisses définir par ça. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas, dans ma vie, qui est très difficile. Parce que souvent, je sais pas vous, mais moi, je regrette souvent, par exemple, d'être HPI ou de pas être normalisé, parce que je me dis toujours, ouais, parce qu'on m'a souvent dit, ouais, le HPI, ça peut être difficile sur certains bords, mais ça peut être aussi un grand atout. Mais vraiment, quand c'est dur et que ça va pas, on se dit vraiment, on s'en fout d'être positif, on a juste voulu. Dans le moule, comme tout le monde. Quoi.
Par exemple, moi, j'ai été harcelée pendant énormément de temps. En primaire, parce que justement j'avais quelque chose que les autres n'arrivaient pas à définir, n'arrivaient pas à contourner. Et justement, quand j'ai su, quand le diagnostic a été posé, j'ai pu mettre un nom sur ça et je m'en suis beaucoup voulu et j'en ai beaucoup voulu que ce soit arrivé. Mais je pense que, après HPI, on en a beaucoup parlé et on en parle beaucoup aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir au premier abord et qu'on ne peut pas identifier facilement et appréhender facilement. Et que, du coup, ça peut être... Je comprends que ça peut être compliqué pour pas mal de personnes, justement, d'avoir des gens HPI, justement, qui travaillent moins, travaillent différemment qu'eux, ou alors une manière qu'ils ne comprennent pas, et s'en sortent parfois... parfois mieux. Ça, je pense que maintenant, grâce justement aux filles, j'ai pu arriver à comprendre justement pourquoi, pas pourquoi j'étais harcelée, normaliser ça, mais comprendre justement la réaction de certaines personnes, parfois négatives, parfois positives, sur ça.
Et tout à l'heure, Monsieur Wiedemann disait que ce dispositif, il fonctionne, enfin que vous faites un bilan régulièrement et que vous êtes très content des résultats. Mm. Sur quels indicateurs est-ce que vous vous basez pour pouvoir dire que ce dispositif fonctionne, ce que vous mettez en place au sein de votre établissement marche?
Alors, en fait, on détecte les éléments sur lesquels les jeunes ont besoin. À un moment donné, enfin, on attend en fait des progrès, ces fameux pas de plus. Si l'enfant a besoin, enfin, d'être moins dans cette, enfin, voilà, de bouger sur l'anxiété de performance, si l'enfant s'ennuie moins, si les performances scolaires sont meilleures parce qu'on arrive à mettre les aménagements en place qui sont utiles, voilà, pour que là aussi y ait progrès. Un enfant qui était déscolarisé et qui parvient en fait à renouer et à être assidu. Voilà, ça reste des critères qualitatifs, en fait, qui sont les éléments qui nous font dire que, oui, ça marche.
Il est dommage qu'aujourd'hui, on prenne la notion de HPI uniquement d'un point de vue consumérisme ou d'un point de vue souffrance psychique. Il faut quand même dire que beaucoup de HPI aujourd'hui vont très, très, très bien et n'ont pas besoin forcément d'une aide ou d'un dispositif particulier, mais simplement d'un regard attentif. Et en fait, nos regards devraient être beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont aujourd'hui.
HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Le potentiel, c'est juste ce dont on est peut-être capable. Donc voilà, on est juste des enfants. On aurait voulu peut-être, certains, être comme les autres, d'autres pas. Mais juste, faut nous regarder comme des enfants, quoi. Mettre une étiquette, c'est pas cool.
Ça veut dire qu'on a juste un mode de fonctionnement différent. Et pas forcément que ce soit une fatalité, on va dire. C'est juste que certaines personnes pensent que du coup, on a forcément des capacités et qu'on peut les utiliser n'importe comment ou comme on peut, entre guillemets, et que c'est... Alors que ce n'est pas forcément ça. Certaines personnes nous voient peut-être comme des handicapés parce que, émotionnellement parlant, on est différent, on ne fonctionne pas de la même façon et que, dans certaines situations, on va réagir autrement.
Je pense que faut arrêter d'associer l'HPI avec certains stéréotypes et avec certain fonctionnement. Parce que, ok, c'est une différence, et alors ?
On entend à travers ces témoignages que leur différence est plus ou moins bien vécue par ces élèves HPI, en fonction de leurs difficultés à l'école ou dans la société en général. En faisant le choix de créer un entre-soi dans la classe de 6e Oxygène, l'équipe pédagogique prend le contre-pied total du principe d'inclusion scolaire. Car le Code de l'éducation a intégré en 2005 des dispositions pour l'aménagement des parcours des élèves intellectuellement précoces. Ainsi, les élèves HPI sont officiellement reconnus au sein de la catégorie institutionnelle des enfants à besoins spécifiques. Mais tous les élèves HPI ne semblent pas être des enfants à besoins spécifiques. Au sein de l'établissement Fénelon-La Trinité, le dispositif Oxygène a été mis en place pour les élèves à haut potentiel intellectuel qui éprouvent un sentiment de décalage avec leurs camarades. Ce dispositif vise particulièrement ceux qui rencontrent des difficultés à donner un sens aux apprentissages scolaires ou à s'intégrer dans le cadre normatif de l'école. Ensuite, fort d'une année de 6e qui leur a redonné confiance en eux et en l'école, ils sont répartis dans des classes ordinaires à partir de la 5e, avec la possibilité, selon leur envie, de se regrouper sur des temps ponctuels dans les dispositifs Zèbre puis Sigma. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Ludivine Chargros, Dominique Coulange et Jérôme Wiedemann pour leur disponibilité et leur accueil chaleureux. Merci également à tous les élèves pour leur confiance et leurs témoignages sincères et poignants. Merci aussi à Marielle Malbeau et Laetitia Bouillot d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission. À bientôt !